Accès libre.
Bonjour tout le monde, Benoît Racette avec vous pour ce début d'année enneigé. C'est le moment de se faire un 90 minutes d'accès libre. Donc au fond, on se fait des traces, des pour se poser une question qui est pas très loin, en fait, qui est importante, c'est-à-dire, est-ce que c'est en faisant de la politique que les personnes en situation de handicap vont changer les choses? C'est une pas pire question. On vous invite à y répondre d'ailleurs sur la page de l'émission d'Accès libre en tapant canalm.vusezvoix.com ou encore en repérant sur les réseaux sociaux Canal M, la radio de Vusezvoix. En table ronde, pour nous alimenter, on rencontre d'ex-candidats-candidates sur l'échelon provincial, Pascal Lemainville, Lucie Maillé, qui vont peut-être poursuivre d'ailleurs leur engagement politique. Qui sait? En entrevue aussi, celle qui est redevenue porte-parole du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, Linda Gauthier, après avoir vécu une campagne électorale municipale. Sinon, d'autres questions qui vous concernent aussi, c'est-à-dire la chronique Destination accessible avec Aube Savard et des nouvelles du Centre d'information sur le glaucome. Voilà maintenant que la Régie de l'assurance maladie du Québec ne paie pas tous les médicaments qui peuvent pourtant charger des vies d'enfants qui ont des maladies neuromusculaires graves. Dans un instant, on rencontre Yann Desfossés, le père de Liam, qui en a bien besoin. Tout ça sur Canal M, la radio de Vusezvoix. On ouvre cette émission en s'adressant au père de Liam. Liam, qui est un enfant de 5 ans atteint d'une maladie neuromusculaire, l'amyotrophie spinale de type A. En fait, c'est la forme la plus grave. Il y a donc cette famille, on rencontre le père, je vous l'ai dit, qui a besoin d'un médicament coûteux pour empêcher la progression de la maladie. Et derrière, il y a deux gouvernements qui n'ont pas le même point de vue sur le paiement ou non de ce type de médicament, pourtant essentiel. Donc, on est avec Yann Desfossés, le papa de Liam, comme je vous le disais. Liam qui a 5 ans et qui est atteint d'amyotrophie spinale de type 1. Bonjour, M. Desfossés.
Bonjour à vous, M. Racette.
Content que vous soyez avec nous. J'ai cru comprendre que vous êtes un animateur d'un groupe de parents comme vous qui, dans le fond, défendez ces besoins de médicaments pour les enfants qui ont le type de maladie neuromusculaire que votre fils. Est-ce que je comprends bien la situation, entre autres, avant d'être père?
Oui, effectivement. Faut savoir qu'au Québec, là, il y a 250 personnes qui vivent avec un diagnostic d'amyotrophie spinale. Mmh. C'est une maladie qui touche effectivement les enfants, la forme la plus grave là, qui apparaît dans les 6 premiers mois de vie. Mmh. Mais cette maladie-là touche aussi, elle peut sortir là un peu plus tard. Donc, il y a des adolescents, voire même des adultes qui vivent avec ce diagnostic-là. Au Québec, c'est 250 personnes.
Ah, donc, c'est 250 personnes. Mais il faut dire, là, comme vous l'avez décliné, il y a le type A, qui est la forme la plus grave, mais il y a, type 1, mais il y a aussi type 2 et le type adulte. Et ça, ces types de maladies-là sont peut-être moins graves, atteignent moins...
L'espérance de vie est moins fragile. Pour les types 1, là, historiquement, on parle de 95% de décès avant l'âge de 2 ans. Les types 2 vont donner des enfants, voire des adolescents handicapés qui n'auront pas la faculté de marcher. Et puis les types 3, c'est la version qui va sortir plus à l'adolescence, où les gens vont avec le temps là souvent perdre la faculté de marcher.
Ouais. Et donc, je parlais à l'animateur, à cette personne qui rassemble un peu ses parents, mais vous êtes évidemment papa de Liam. Votre enfant est une force de la nature, hein, vous le disiez, espérance de vie de 2 ans, il vit maintenant jusqu'à 4, il y a 4 ans en ce moment, et vous avez réussi de peine et de misère à obtenir un médicament. Expliquez-nous un peu mieux ça.
Il faut savoir que la pharmaceutique qui a obtenu l'aval, d'ailleurs, là, en septembre de Santé Canada, décembre 2016, c'est la FDA aux États-Unis qui approuvait ce premier et seul, unique médicament contre la myotrophie spinale. Mm-hmm. Et suite à cette approbation-là, la pharmaceutique a un programme quand même de soutien. Là, il y a un accès compassionnel pour les types 1 uniquement là, qui a été ouvert pendant un laps de temps. Et Liam a cette chance-là là, d'avoir pu embarquer. Donc, actuellement, c'est la pharmaceutique qui défraie le prix de la molécule pour Liam. Et quelques chanceux dans leur malchance ici au Québec.
Mais donc, c'est le programme, il y a un programme qui existe, là, qui est Accès spécial de Santé Canada, c'est ça? Est-ce que c'est ce programme-là auquel vous avez fait, avec lequel vous faites affaire,
non? C'est un programme qui a été mis en place par la pharmaceutique.
Ah oui?
Oui, sur l'ensemble de la planète. Il faut dire que ce médicament-là a un parcours parfait. On suit évidemment aussi la mise en marché d'autres médicaments. Et puis, il n'est pas rare là, que les médicaments doivent retourner à la table de travail parce qu'il manque des données ou que les résultats ne sont pas convaincants.
Mais on est souvent dans l'expérimental, hein? Et puis parfois, on précipite les phases là, pour aider les personnes.
Dans ce cas-ci, la pharmaceutique elle a vraiment fait du gros boulot, quitte à ce que les essais cliniques comprenaient des placebos. Donc, malheureusement, il y a des enfants qui ont continué à décéder parce qu'ils ne recevaient pas le médicament. Alors, tous les dans le jargon médical, les « endpoints » ont été rencontrés. Et dès le premier dépôt, là, le médicament a été approuvé, recommandé pour l'ensemble, les types 1, 2, 3, par la FDA.
Oui.
Donc,
ça a même été, ça a même été approuvé ailleurs là, qu'aux États-Unis.
Plusieurs pays en Angleterre, en France, les enfants et certains adultes reçoivent déjà.
Nommez-le d'ailleurs. Nommez-le ce médicament. Donc c'est le
parce qu'on a Spinraza. Deux,
c'est ça. Le Spinraza. Donc pour les gens qui nous écoutent, Spinraza. Ce médicament, donc, il est possible d'y avoir accès. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai cru comprendre que Santé Canada était favorable, avait approuvé en décembre, mais c'est pas le cas pour l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui est un peu l'autorité là, en ce moment pour le ministre Barrette au Québec.
Effectivement, elle a malheureusement fait une recommandation défavorable tant qu'à l'inscription pour le remboursement du médicament, et ça pour l'ensemble là, de la communauté SME, là, peu importe le type. Elles reconnaissent l'efficacité, surtout on parle ici dans le cas des types 1, ça c'est pour l'INES, mais malheureusement, l'INES a aussi un mandat, en quelque sorte, de comptabilité, hein, c'est un peu le chien de garde du portefeuille, là, et puis juge que pour le système de santé québécois, on n'a pas les moyens, malheureusement, de sauver ces petites vies-là. Pour nous, c'est une vue qui est quand même, qui manque de vision, là, parce qu'il
Pas juste de vision, c'est un peu scandaleux. Et on le sait, là, cette institution-là, cet institut, pardon, comme vous le dites, contrairement ailleurs au Canada, tient compte pas seulement de l'éthique, je dirais, de la vie des personnes, fait pas seulement des approbations scientifiques, mais s'intéresse à la capacité de payer. Ça, c'est le vocabulaire qu'on emploie de plus en plus. Est-ce que c'est ça le problème, dans le fond, en ce moment?
Tout à fait. Malgré les propos de M. Barrette, là, qui publiquement, lui, soulignait que c'était un problème d'efficacité et non de coût.
Donc, il remet en question ce que les États-Unis ont déjà dit ou même ce que les autres provinces au Canada font, c'est ça? En gros.
Oui, à savoir que dans un système où les assureurs privés aux États-Unis, là, il y a plus de 70% de la population touchée, et là, c'est 35 000 personnes qui ont accès présentement au Spinraza via les assureurs privés. Okay. Malheureusement, ici, avec la recommandation défavorable de l'INES, les gens qui ont des assurances privées au Québec viennent de se faire mettre un obstacle supplémentaire parce que à cause d'entente entre le gouvernement et les assureurs privés n'ont pas besoin, ne sont pas tenus de rembourser si le gouvernement n'inscrit pas dans la liste des médicaments de la RAMQ.
Alors, donc, on est encore plus pénalisé. On est plus pénalisé parce que souvent, on parle de notre système de santé public, universel et gratuit. Là, puis on emploie de plus en plus de guillemets parce que c'est plus le cas. Mais là, même chez les assureurs privés, ce ne sera pas possible de se faire rembourser ce médicament-là. Et on parle de 250 personnes. Est-ce que c'est vraiment 250 personnes qui auraient besoin de ce médicament-là, d'ailleurs?
Oui, tout à fait, puisque c'est une maladie dégénérative, là. Et puis quand on parle et quand on met en doute l'efficacité dans un cas de maladie dégénérative, l'efficacité, c'est stopper la progression de la maladie. Évidemment, les handicaps qui ont été développés suite à la maladie ne sont pas nécessairement réversibles, mais garder la capacité là, de se gratter les yeux tout seul, de respirer sans être soutenu par une ventilation mécanique ou une trachéotomie, stopper donc la progression de la maladie, c'est une preuve d'efficacité. Là. On ne demande pas nécessairement, on n'espère pas que nos enfants vont se remettre à marcher debout, mais de s'éviter des décès, des hospitalisations, des complications, puis la dégénérescence. Oui, les 250 personnes ont besoin de ce médicament-là. Sinon ça, ils sont voués à une dégénérescence tranquillement, pas vite pour les plus vieux, mais très rapidement là pour les enfants. Il faut savoir là que c'est ça. Là, je reviens là sur le fait que 95% des enfants là, type 1 décèdent avant l'âge de 2 ans. Et dans notre cas, vous soulignez là, que Liam reçoit le médicament. Il a eu le temps de développer des handicaps.
Oui.
Il fait des progrès depuis qu'il reçoit le médicament. Ce qu'on voit, c'est que les enfants qui peuvent recevoir le médicament avant l'apparition des symptômes, idéalement, ça prendrait un dépistage systématique
pour
l'ensemble des enfants qui naissent.
Et la Belgique vient d'adopter ce dépistage systématique, ce qui n'est pas encore le cas ici.
Non, on est loin de là, puisque l'INES ne recommande pas de donner même aux enfants présymptomatiques. Et là, ce qu'on voit, c'est que 100% des enfants qui reçoivent le médicament avant l'apparition des symptômes ont un développement à 97% normal, ont une vie tout à fait normale et ne développent pas d'handicap. Alors, encore une fois, là,
je pense que c'est très clair.
La preuve d'efficacité du médicament.
Écoutez, Yann Desfossé, non seulement votre engagement est exemplaire, parce que, bon, vous pouvez un peu, disons, améliorer la qualité de vie de votre enfant aujourd'hui, mais rien n'est gagné, vous avez encore à vous battre, et lui encore à se battre, mais vous vous battez pour l'ensemble, et j'invite les gens à aller signer la pétition qui est actuellement en cours. En fait, c'est la pétition où on pourrait la retrouver sous le nom financement du SPINRAZA, S-P-I-N-R-A-Z-A. Donc, vous pouvez aller soit sur le site de l'Assemblée nationale sur asnat.qc.ca pour la repérer, ou même sur Google, là, écrivez simplement financement du SPINRAZA et vous allez retrouver la pétition. Yann Desfossé, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, M. Rassette, pour passer l'information. Puis, comme vous le soulignez, là, j'invite la population à nous soutenir. C'est important parce que c'est valable aussi pour les autres maladies rares. Quand il y a un médicament, là, je veux dire, le gouvernement a invité les pharmaceutiques, leur a donné les moyens, en fait, pour les développer. Alors maintenant, il faut, faut être conséquent avec leur offre et allonger la monnaie.
Et surtout, reconnaître que la vie, c'est le but à protéger avec un système de santé et non celui d'un certain ministre. Enfin, je vous remercie et on invite les gens à aller signer la pétition. Merci beaucoup, monsieur.
Merci à vous.
Avec nous, Linda Gauthier, toujours activiste, fondatrice du regroupement pour les activistes pour l'inclusion au Québec qui est maintenant porte-parole, même si elle a fait un petit détour politique avec Éric Coderre aux élections de Montréal. Bonjour Linda Gauthier.
Bonjour Benoît.
Très content que vous reçoiez avec nous, que vous soyez de nouveau avec nous.
Merci, bonne année à vous.
Ben oui, bonne année. Alors, vous nous aidez un peu à progresser sur cette question qu'on a lancée aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer les choses en politique quand on est une personne en situation de handicap? Je vous poserai la même question. Est-ce que c'est en faisant de la politique que les personnes en situation de handicap changeront les choses, Linda Gauthier?
Ben, définitivement, oui. Parce que je crois bien que, en fait, qu'on peut influencer énormément, que ce soit en faisant filer les autres chips à côté de nous autres, parce que ils feront pas quelque chose pour faire avancer, que ce soit l'accessibilité, que ce soit une politique, quoi que ce soit.
Ça vous regarder dans les yeux.
C'est ça, exactement.
Oui.
Ne serait-ce que ça, pour commencer. Mm. Parce que c'est sûr que ça se ferait pas tout de suite, là. Mm. Mais je me dis, déjà au départ, que dans le temps de Lise Poulin, qui était conseillère d'arrondissement, elle siégeait pas, mais était sur une commission. Ça influençait quand même.
Oui.
On sentait un petit courant là, qui, qui fatiguait un peu. Tu sais, ça dérangeait.
Mm-hmm. Ben effectivement, c'est le seul exemple, d'ailleurs, il faut le rappeler, sur l'échelon municipal montréalais, d'une personne en situation d'handicap qui a été élue. Donc, vous avez tenté, vous, d'être cette autre femme élue. Est-ce que c'est possible de demeurer activiste après qu'on ait brillé un poste avec le gouvernement au pouvoir, ou en fait l'administration au pouvoir?
Ah oui, absolument, absolument. Là, c'est toujours les convictions. Hein, qu'on va, même si j'avais été à l'intérieur, je serais demeurée activiste.
Oui. Ben oui, c'est votre posture, c'est ça.
Ben oui, tout à fait. Okay. Et puis, moi, je le maintiens, je le dis, si vous allez dire, ça a l'air facile à dire, mais si ça avait été plate et long, puis qu'il avait toujours fallu que je suive la ligne de parti, puis qu'il n'y avait rien qui aurait été fait, je serais revenue chez nous.
Oui, ça, j'en doute pas.
C'est tout.
Donc, la ligne de parti, c'est vrai que c'est ce qu'on défend souvent. Hein? Ouais. Puis les besoins des personnes en situation de handicap sont moins, encore aujourd'hui, moins connus, moins défendus. Donc, c'est sûr que ça nous met un peu en porte-à-faux parfois, mais il faut quand même regarder la logique politique, Linda Gauthier. Puis je vous pose la dernière question, après on va parler de l'activiste avec vous. La circonscription que vous visiez, c'est-à-dire le district de Lormier, que vous habitez, là, était jugée peu gagnable. Est-ce que c'est souvent l'eau des personnes en situation de handicap ou des minorités qu'on leur propose comme ça une circonscription qui est pas mal difficile à gagner?
Bien, c'est possible. C'est très possible. Peut-être en leur faisant, pas miroiter, mais en tentant peut-être de leur donner cette confiance-là, le petit bout de confiance qui leur manque en leur disant « tu peux gagner ».
Ouais.
Puis c'est vrai que tout est possible. Hein? Quand on dit « ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait », là, c'est un peu ça.
Okay.
Puis moi, je me disais « je suis connue quand même ici, je ne me suis pas fait juste des ennemis, tout ça ». Oui, c'est un château fort, mais pour moi, c'est un défi.
Oui.
Puis j'avais vraiment envie de le relever.
Bien sûr. Bon, et c'était votre district, celui que vous habitez depuis longtemps. Là.
Oui, oui, bon. Absolument.
Mais est-ce qu'on vous avait promis quelque chose en échange? Parce que quand même, c'était peu gagnant, mais vous y allez certainement pour défendre jusqu'au bout là, les personnes en situation de handicap.
Non, on m'a rien promis à part une chose.
Oui.
J'ai établi ça d'ores et déjà, je leur ai dit, je lui ai dit plutôt. Si moi je suis
on parle du maire de l'ancien maire de Nicolas.
Si je suis élu, j'ai des besoins spéciaux et ça va me prendre un local parce que moi je on va appeler ça un chat. J'ai besoin d'un laisse-personne pour aller aux toilettes.
Oui.
Alors ça avait été établi. C'est tout ce qu'on m'a on m'a promis.
Bon, mais
en fait, c'est pas rien de d'extravagant, mais j'avais établi ça d'ores et déjà.
Mais c'est quand même le minimum, si vous permettez, Linda Gauthier. Qu'est-ce que ça prendrait, justement, parce que là, vous l'énoncez, là, ça prend un local accessible, ça prend 9 personnes dans plusieurs cas, ça prend peut-être des interprètes, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait pour soutenir la candidature des personnes en situation de handicap, là, peu importe que ce soit au municipal ou au provincial, comme les élections s'en viennent, là?
Ben oui, c'est justement, plutôt que juste regarder, parce que ça me fatigue beaucoup, de dire, on n'a pas suffisamment de personnes issues des minorités visibles. Minorités visibles ici, ça veut pas dire, là, ça inclut pas les personnes en situation de handicap.
Alors,
non.
OK.
C'est d'ailleurs, c'est politique. Si on regarde sur Wikipédia, on voit qu'au Canada, ce n'est pas comme ça. Fait que, tu sais, dire, il s'en prend. Des personnes issues des minorités visibles, sauf que ça nous prend aussi des personnes en situation de handicap pour nous faire comprendre l'enjeu de l'accessibilité universelle.
Bien sûr.
Et, tu sais, puis évidemment, la situation aussi de pauvreté et tout, tu sais, qui est inclus là-dedans.
C'est très important.
Je pense que, d'ores et déjà, il faudrait emboîter le pas, pas attendre qu'on en ait une ou un dans l'équipe. Pour faire, c'est justement pour faire des travaux de mise en accessibilité qui répondraient à un accommodement raisonnable au travail. Il faudrait le faire avant.
Ah ben oui. Mais c'est comme ça que ça se passe en ce moment à la Ville. Vous énoncez peut-être un des premiers combats que vous avez maintenant que vous êtes redevenu activiste, l'emploi à Montréal?
Ah ben oui.
Oui.
Définitivement. Puis ça, j'ai bien hâte au 22, là.
OK. C'est quoi le 22?
Ben, c'est le prochain conseil de ville.
Ah oui, bien sûr, je suis désolé. Donc, au prochain conseil de ville, vous souhaitez parler de la question des emplois à la ville?
Ben probablement. Je ne serai pas seule, bien évidemment.
Oui, bien sûr.
C'est toujours le tirage au sort. Fait que ceux qui seront pigés, il y aura une couple de questions sur la table, là, évidemment. Mais ça, c'est une des premières choses.
Je dois vous quitter bientôt, mais Linda Gauthier, c'est quoi le combat que vous devez mener cette année comme activiste?
Les préjugés.
Ah oui.
Je m'attaque à ça.
Wow! OK, donc on a bien, on va se tenir. Sur toutes leurs formes, les attitudes discriminatoires en oui. politique, sur
ces préjugés-là? Effectivement. Surtout là, parce que les décideurs politiques, qu'on le veuille ou pas, ça part de là, c'est eux qui influencent.
Voilà, le premier mot est lancé, c'est les hommes d'influence. Je dis hommes parce que c'est encore beaucoup des hommes, même si on a une mairesse maintenant.
Oui.
Donc, c'est souvent eux qui permettent que les préjugés continuent. Et vous allez pourfendre ça, comme d'habitude.
Oh, yeah!
Linda Gauthier, merci infiniment.
Merci à vous, Benoît.
C'est un plaisir. Rappelons que vous êtes porte-parole, notamment, cofondatrice du Rapplique. On peut retrouver plus d'informations sur rapplique.org ou votre page Facebook.
Voilà, merci.
À bientôt.
Au revoir.
En Amérique du Nord, le glaucome affecte 2,5 millions de personnes et un grand nombre de ces personnes ignorent en être atteint. Alors, il est important de démystifier, il est important d'accompagner ces personnes et c'est pour ça qu'a été mis sur pied le Centre d'information sur le glaucome. Il est basé à l'Hôpital juif de Montréal et Marc Renaud, le cofondateur du centre et le chargé de projet, est avec nous pour présenter les activités. Bonjour, Monsieur Renaud.
Bonjour, comment allez-vous?
Ben ça va bien, je suis content que vous soyez avec nous en ce début d'hiver, hein, parce que c'est pas simple là, de braver la tempête. Bon, voilà. Écoutez, c'est quoi la mission du Centre d'information sur le glaucome, là? Puis j'imagine que c'est facilement accessible hein, pour les gens, peu importe leur déficience.
Absolument. De toute façon, c'est ouvert à tous.
Aha.
Et on se considère chanceux de pouvoir offrir ce service-là justement à toute la population, non seulement aux gens qui sont atteints de la maladie, mais n'importe qui est même curieux ou qui veut s'informer sur une maladie qui reste encore très mystérieuse.
Mm-hmm.
Alors, notre action se porte sur deux fronts à la base. Un, la sensibilisation, parce que c'est une maladie qui ne présente pas de symptômes. Alors, si on ne sait pas qu'on a la maladie, alors il est très difficile de la traiter. Mais une fois que les gens ont la maladie, il y a un autre aspect qui est important, qui est celui de l'éducation.
Ah, oui.
Le problème avec les maladies qui ne présentent pas de symptômes, que ce soit ça ou encore l'hypertension, quoi que ce soit, on a une tendance à négliger les tests, on a une tendance à négliger de prendre nos médicaments et tout le reste, parce que justement, il n'y a pas de symptômes.
C'est des maladies silencieuses, si je peux me permettre l'expression, puis ça nous donne l'impression qu'on n'a rien à faire là, pour s'en occuper, pour éviter que ça dégénère, etc. Mais c'est quoi les prochaines activités que vous faites là, pour accompagner les gens, pour que les gens, justement, s'occupent de leurs maladies silencieuses?
Alors, on se targue d'être le seul centre au Canada qui offre un espèce de mini-cours sur le glaucome, encore une fois gratuit et ouvert à toute la population, où on prend le temps, ce qu'on n'a plus beaucoup dans les hôpitaux et même dans le cabinet des médecins.
En effet, oui.
Bon, d'expliquer, là, mais vraiment de A à Z, ce qu'on devrait savoir à la base sur le glaucome. C'est-à-dire, un technicien, donc c'est moi, va expliquer comment le glaucome apparaît, comment les yeux fonctionnent, comment on traite le glaucome. On a une infirmière sur place qui va parler de l'utilisation des médicaments, la bonne utilisation des gouttes et des médicaments. On va parler aussi, donner quelques trucs, parce que quand même, on prend pour acquis que c'est facile de se mettre des gouttes dans les yeux, mais c'est pas nécessairement vrai.
Considère
qu'il y a des gens qui font de l'arthrite ou encore des tremblements. Et à la fin, j'ai toujours un médecin invité qui vient répondre à toutes les questions sur le glaucome. Alors donc, on outille les gens avec de l'information de base qui leur permet de mieux communiquer avec les spécialistes de la santé visuelle. Et ça, ça aide beaucoup parce que ce qu'on veut faire, c'est transformer le patient passif en une espèce de partenaire de son traitement. Et ça aide.
C'est la nouvelle manière de penser, sauf que ça prend du temps, puis vous le prenez le temps pour expliquer les choses, pour au fond faire passer l'expertise de l'expert à la personne qui vit le glaucome, c'est ça? On pourrait dire ça? On pourrait dire
oui,
ça.
Ben dans le fond, je suis un peu comme un vulgarisateur oui. de cette information-là. On la rend très accessible à peu près à tout le monde.
Okay.
Mais le fait de pouvoir rencontrer sur place une infirmière et un médecin, ça, ça aide toujours. Même si moi, personnellement, je vais quand même rencontrer des organismes à l'extérieur,
ah oui.
ou dans des bibliothèques où je vais rencontrer les gens pour leur parler de glaucome. Mais à la base, ce qu'on fait, nos conférences se donnent à tous les mois, soit en alterne, on alterne en français et en anglais.
Mm-hmm.
C'est toujours un lundi après-midi de 16h à 18h. Et les gens sont bienvenus, ils viennent faire un tour, on sert le café, les petits biscuits. Puis en plus, on donne un livre qui nous est offert par les éditions Annika Parence sur le glaucome.
Ah oui, bon, c'est très heureux. On va mettre le lien, bien sûr, du Centre d'information sur le glaucome sur la page de l'émission. Ben oui, et comme vous êtes là, on va en profiter. C'est quoi les conseils que vous donnez aux personnes en âge de contracter un glaucome?
Le glaucome est généralement détecté vers l'âge de 40 à 45 ans. C'est-à-dire, mm-hmm. même si vous n'avez jamais eu de problème aux yeux, c'est à peu près l'âge où on commence à se poser des questions par rapport à notre habileté de lire. C'est l'âge où on commence à avoir de la difficulté à lire. Alors, c'est souvent la première fois qu'on pense à aller consulter, par exemple, un optométriste.
Mm-hmm.
Et c'est là, souvent, que c'est détecté. Donc, l'optométriste, en première ligne, va faire ce travail-là. Et s'il trouve des signes qui peuvent amener au glaucome, à ce moment-là, il va tout simplement vous envoyer voir un spécialiste.
Okay.
Mais c'est à peu près vers cet âge-là. Donc, c'est à peu près 2,5% de la population susceptible de développer un glaucome vers cet âge-là. Malgré que le glaucome, toujours une maladie qui est mystérieuse et multifactorielle, on peut dire que vers l'âge de 80 ans, c'est quand même tout près de 11% de la population qui est susceptible d'avoir cette maladie-là. Et c'est une maladie où on dit où 50% des gens qui ont la maladie ignorent qu'ils l'ont, à cause justement que le facteur qu'on n'a pas de symptômes. Mais il y a aussi le fait que les gens qui ont cette maladie-là, n'ayant pas justement de signes, quoi que ce soit, vont avoir une tendance à négliger de faire un suivi. Parce que c'est une maladie qui, pour l'instant, ne se guérit pas, mais c'est une maladie qui se contrôle.
Okay.
Il faut se rappeler que c'est quand même la deuxième cause de cécité au monde.
Ah oui, bon, ben voilà. Donc, éventuellement, c'est parce qu'on peut perdre la vue, tout simplement. Là. C'est ça qui est en cause. Là.
Oui. Et quand on dit perdre la vue, c'est on commence par la perte de la vision périphérique.
Mm-hmm.
Les gens qui ont déjà eu, par exemple, des cataractes sont les premiers à savoir qu'il y a un problème. La vision devient de plus en plus embrouillée. Bon, ils vont aller consulter parce qu'il y a un symptôme.
Mm-hmm.
Quelqu'un qui fait de la dégénérescence maculaire, si la vision centrale, il va se passer des choses un peu bizarres, ils vont aller consulter parce qu'il y a un symptôme. Mais dans le cas du glaucome, cette maladie-là, ça affecte la vision périphérique, la capacité du nerf optique d'envoyer de l'information au cerveau.
Mm-hmm.
Alors, à ce moment-là, on perd notre vision de côté, si vous préférez, et on peut quand même garder une très bonne vision centrale.
Ah donc, oui, puis les gens s'accommodent de ça parfois. C'est ça le problème.
Tout à fait,
oui.
Tout à fait.
Bon, écoutez, on n'oublie pas que vous offrez une fois par mois cet atelier d'éducation. Hein, c'est basé
à l'Hôpital Général Juif.
Voilà. Et il est possible d'aller au jgh.ca/fr/ Centre d'information sur le glaucome pour avoir plus d'informations. Ou même, les gens peuvent venir visiter notre page canalem.vusevoix.com pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, M. Renaud.
Bien, je vous en prie. Notre prochaine session en français va se tenir le 5 février 2018
bon,
à la salle A102. Les gens sont bienvenus à venir en grand nombre.
5 février. Alors, c'est un rendez-vous. À bientôt, M. Renaud.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
Content de te retrouver, on s'est pas vu de toute la semaine. Faut dire que notre amitié me rappelle à moi-même. Il se passe rien de particulier, mais d'entendre dire je t'aime par un ami qu'on voit souvent, par un ami important, ça fait du bien. Je sais pas pourquoi je me sens fébrile. Je sais que ça te dérange pas, mais j'ai les yeux humides. Je m'excuse toujours dans ces cas-là. Peut-être qu'aujourd'hui, plus qu'hier, la vie me glisse des doigts. Le quotidien a ses petites misères. Tu sais ce que c'est aussi bien que moi. Pas vrai? Alors je nous ai apporté deux verres et une bouteille presque pleine. Ce soir on a le monde à refaire. Avant de commencer la semaine, serre-moi un coup, serre-moi bien fort. Et surtout, faut me promettre que le bonheur est un abreuvoir. Et que ce soir, on boit cul sec à ta santé. Parce que toi et moi, on le sait bien, au fond, le monde nous appartient. Et y'a rien d'autre à en dire que le silence forge des liens dont le temps a le souvenir. Je m'excuse d'être venu comme ça à l'improviste jusqu'ici. Dimanche, il est tard, je sais tout ça, mais il me fallait t'accompagner. On n'a pas toujours pris le temps pour se parler, pour se dire toutes les émotions que l'on sent quand on apprend à mentir, à se mentir. Et puis avec l'âge sur les épaules, devenu un tout petit peu moins con, notre amour propre se dépose à bonne distance de nous. T'as deviné, elle est partie, sans doute que c'est mieux comme ça, mais je donnerai ma chemise pour la reprendre dans mes bras, dans mes bras. Mais au moins, toi, t'es là, tu demeures. Même si je perds le goût d'aimer, même si j'implose, même si je pleure, même si mon orgueil est touché, et même si la leçon est dure et que j'ai mal à en crever, toi, tu fais partie de l'aventure. Tu comprends tout et tu attends le bon moment. Alors, je veux te dire merci, tout simplement comme un frère. Parce que dans ce vieux monde pourri, toi et moi on fait la paire. Aujourd'hui devenus des hommes, on a toujours su être fous. Mais pour être vraiment ce que nous sommes, qu'avons-nous fait, que ferons-nous? Jamais assez, jamais assez. Parce que toi et moi on le sait bien, au fond le monde nous appartient. Et y'a rien d'autre à en dire que le silence forge des liens dont le temps a le souvenir. Mais toi et moi, on le sait bien, l'amour bien plus que le temps. L'amour bien plus que le temps. À me prendre son temps.
Question de la semaine, est-ce que c'est en faisant de la politique que les personnes en situation de handicap changeront les choses? Quelle est la réalité d'un candidat en situation de handicap?
Ou une candidate, si vous préférez. Vous l'avez entendu, on s'imagine que c'est encore loin, à quelque chose comme 10 mois, ces élections provinciales. Mais si on veut être candidat, c'est maintenant qu'il faut travailler, que ce soit en participant à l'investiture d'un parti.
Hein, si on a
une participation. Oh, vous m'entendez pas? je suis en train de présenter. On va s'assurer okay. qu'on...
Hello, j'entends rien.
Ah, bon. On entend ce moment,
moi,
en tout cas. Bon. C'est Pascal Lemainville qui est avec nous, Lucie Maillé. On va régler la situation. Il semble que notre ami ne nous entende pas bien, mais on va régler ça dans deux instants. Enfin, on vous revient. Donc, ce sont des candidats-candidates qui ont déjà participé au niveau provincial. Et on parle avec eux parce que peut-être que non seulement eux vont se représenter, mais vous aussi, vous pourriez avoir envie de le faire à la maison, peut-être pour changer les choses, peut-être que c'est la voie qu'il faut. Alors, je ne sais pas, peut-être que Pascal Mainville ne m'entend pas en ce moment? Donc, on sent que Pascal Mainville ne m'entend pas. On va régler la question. Heureusement, Lucie Maillé est aussi avec nous, femme d'exception, mais aussi ancienne candidate dans la circonscription de Bertrand pour Québec solidaire. Donc, Lucie Maillé, bonjour. Ah, bon, il semble qu'on n'ait pas Lucie Maillé non plus. Non, mais c'est les plaisirs là, du direct. OK, bon. Alors, écoutez, on va régler cette situation et on vous revient dans quelques instants. Ce n'est pas l'hiver qui a mis de la neige ou du frima dans nos lignes. C'est une question technique, une oreillette, voyant, ou à peu près, et une ligne ensuite. Alors, on est avec actuellement Lucie Maillère, femme d'opéra, professeure de musique, mais aussi militante politique chez Québec solidaire et ex-candidate dans la circonscription de Bertrand. Alors, bonjour, Madame Maillère.
Ben, bonjour, Monsieur Raphaël.
Très content que vous soyez là.
Ah, très contente d'être là.
Bon, ça c'est certain, je le sens toujours dans votre voix. Vous êtes une femme de voix d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
C'est ça. Et Pascal Mainville, qui a été candidat aux dernières élections municipales pour option capitale nationale dans Pointe-de-Sainte-Foy, Québec, et qui a été candidat dans Louis-Hébert en 2014 pour Québec solidaire. Bonjour Pascal.
Ouais, salut Benoît.
Bon, alors on y arrive, tout le monde est là, très content que vous soyez là. On ne sait pas d'ailleurs si vous allez vous représenter, mais ça c'est une question pour un peu plus tard. J'aurais envie d'abord de vous parler d'aujourd'hui. Je commencerai avec Pascal, ou plutôt d'hier, je commencerai avec Pascal Mainville. Donc, vous avez été candidat en 2014, vous êtes en situation d'handicap. Vous vous déplacez entre autres avec un triporteur, si je ne m'abuse?
Un quadri.
Bon, alors le quadriporteur. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique lorsqu'on se déplace en fauteuil?
Ben, ça veut dire qu'on peut avoir les mêmes barrières que d'habitude, les mêmes barrières architecturales, les endroits où il y a des marches, les endroits où les personnes handicapées qui utilisent des roues, on n'a pas pensé à eux et elles, tout simplement. C'est la même chose que dans le restant de la vie, là.
Bien, c'est très pragmatique, c'est ça. C'est d'abord l'inaccessibilité des lieux potentiels.
Il faut toujours que tu te casses la tête comme quoi ce lieu-là, est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce qu'il y a moyen de rentrer là avec des roues à l'intérieur? Faut toujours penser à ça. Mais moi, dans mon cas, moi, ça ne s'est pas vraiment présenté parce que dans les deux cas, j'ai surtout fait une campagne téléphonique. Moi, j'essayais de parler directement aux gens quand tu ne déranges pas les gens. En laissant des mots, en tout cas, en laissant une présentation, puis un site web sur les boîtes vocales des gens, deux jours, en disant, écoute, les gens, on sait ce que c'est, les téléphones qu'on reçoit pendant l'heure du souper, hein, ça veut dire, le monde a juste hâte de raccrocher, puis écoute, absolument rien. Moi, je disais, ben, on va le dire, ben, toi, je bouquais ça en deux minutes trente. Bonjour, etc. Voici ce qu'on offre en gros. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site web qui est le site suivant. Merci, bonjour.
Ben,
c'est sûr que je vais venir faire une campagne classique comme d'autres candidats ont fait. Ça aurait été probablement problématique à cause justement de l'accessibilité universelle qui est rarement là.
Bon, en effet. Puis, il y a d'autres personnes aussi qui sont passées en même temps que vous. On pense à Linda Gauthier qui utilisait le walkie-talkie pour ses élections à Montréal. Monique Trudel avait fait la même chose il y a quelques années aussi. Mais il reste que d'accéder là, aux gens eux-mêmes, c'est pas mal difficile. Là. C'est pas simple.
Ben oui, parce que c'est comme on a dit il y a pas longtemps. Si ça prend quelqu'un pour aller porter le talkie-walkie, là, oui. Talkie-walkie à la personne à qui on veut s'adresser. Sinon, on peut y aller un peu avec un mégaphone, mais là, ça manque de subtilité un peu.
Oui, non, c'est ça. Le mégaphone, ça nous donne des allures d'étudiants. Puis à Québec, on n'aimait pas beaucoup ça. Hein? Excusez.
Je pense que non, d'après mon souvenir.
OK. Je suis désolé.
Mais d'un autre côté, ça permettrait de faire d'une pierre deux coups avec plusieurs personnes en même temps, mais non, ce ne serait pas apprécié.
Non, c'est ça. C'est pas si efficace, donc. Mais vous le voyez, vous l'entendez, en tout cas, il y a des défis très pratiques au fait de se présenter. Ça prend des bénévoles. Donc, vous avez été d'abord, Pascal Mainville, une personne impliquée dans votre milieu. Hein, ce n'est pas venu du jour au lendemain. Ouais, la politique, c'est venu après. Vous avez milité dans des groupes. Pardon?
Oui, bien sûr que oui. Moi, j'étais longtemps, je suis encore membre de la Ligue des droits et libertés.
Ah oui?
J'étais sur le conseil d'administration durant quelque chose comme 3 ans. Ensuite, ben, les associations de personnes handicapées, j'ai travaillé dans le milieu d'ailleurs, jusqu'en 2008, ça s'est terminé. Je n'ai plus trouvé de contrat. Et j'ai pris une voie de garage, comme on pourrait dire. Ouais. Mais à l'époque, j'ai travaillé dans les associations de personnes handicapées, par chez nous, à Montmagny, et aussi à Lévis. Mais à Lévis, c'était plus en santé mentale. Mais là, la réalité, en fait, que je n'ai plus trouvé de contrat et j'ai pris une voie de garage. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Je me suis impliqué. J'ai travaillé dans le domaine du communautaire, principalement avec les personnes handicapées, évidemment.
Mais ça, c'est la première. C'est le premier handicap, dans le fond, c'est souvent la pauvreté. Là. C'est difficile de trouver un emploi. C'est pas tous les secteurs où c'est facile d'avoir un emploi.
C'est sûr que évidemment, je veux dire, à part les secteurs où on va appeler ça bêtement comme ça, mais des quotas, entre guillemets, là, comme secteur des banques ou différents autres domaines. En général, bon, on a vu avec des reportages dans les journaux, à la télé, il n'y a pas longtemps, que quand tu es une personne handicapée, et encore plus quand tu es une personne handicapée qui utilise des roues, que tu aies le diplôme que tu veux ou que tu arrives avec la subvention que tu voudras pour adapter le lieu de travail, ça ne marche pas. Je parle avec deux prises comparativement à une autre personne qui a la même chose que toi au point de vue formation ou expérience pour avoir un emploi.
J'adore ça ce qu'on vit en ce moment, Pascal Mainville, parce qu'on se rend compte qu'on est obligé de parler d'handicap. Et on s'est déjà parlé il n'y a pas si longtemps. Puis, comme candidat, que ce soit d'Option Capitale Nationale ou comme Québec solidaire avant, vous auriez aimé parler davantage, peut-être, de d'autres sujets que le handicap. Est-ce que je me trompe?
Ben oui, évidemment. Moi, je passe ma vie avec, depuis 1997, on a autre chose que des handicaps ambulants. On a une condition physique, mais on n'est pas juste ça. On ne doit pas se résumer à ça. On ne doit pas nous résumer à ça. Puis on peut parler de n'importe quoi, de n'importe quel sujet, comme n'importe quelle autre personne dans la société.
C'est quoi votre combat, vous, comme candidat politique? C'est quoi l'enjeu le plus important là, qui fait que vous avez aimé vous présenter ou que vous aimeriez peut-être un jour défendre en politique?
Là, je vois un peu comme... on va en parler, finalement.
Allez-y!
Bon, mon enjeu principal, c'est aussi le cas dans ma vie personnelle. J'ai toutes sortes de dossiers un peu partout, notamment comme sur les droits de la personne.
Oui.
Pour ce qui est des droits des personnes handicapées, l'accessibilité, pouvoir prendre la bus à Québec, le transport régulier à Québec, c'est impossible pour une personne qui utilise un carré porteur. On l'interdit.
Ah oui.
C'est un de mes combats. Alors que la 807, moi j'ai 807, il y a rares bus à Québec qui sont accessibles. C'est les 800. Et j'ai 807 qui passent devant ma porte pour m'interdire de prendre.
Ouais.
Donc ça, c'est un de mes combats. Donc oui.
Discrimination moyen pour pallier au handicap, ça c'est un beau combat.
Évidemment, tout le temps. C'est l'éternel combat. Là.
Mais en dehors du handicap, c'est quoi que vous. Vous défendez comme candidat? Qu'est-ce que vous aimeriez défendre de vous?
C'est un programme de gauche, évidemment, qu'on laisse personne de côté. Parce qu'actuellement, on laisse des gens de côté. C'est ça, un programme de gauche inclusif pour inclure tout le monde, que tout le monde ait suffisamment d'argent pour vivre correctement. Puis c'est pas mal mon point principal à part l'habituel combat pour les droits des personnes handicapées.
Bien, on entend. Donc, laisser personne de côté, c'est... Pratiquement non. Votre campagne électorale. on vient dans deux instants avec Lucie Maillère. On va s'attarder un peu à son histoire. Non seulement Pascal Mainville, qui veut laisser personne de côté, qui a fait de la politique, est là, mais il y a aussi Lucie Maillère, qui a été candidate dans le district de Bertrand en 2014, après s'être impliquée pendant plusieurs années à Québec solidaire. Alors, Lucie Maillère, est-ce que vous avez aimé être candidate
en 2014?
Oui.
Ah oui, absolument. Et puis, surtout à la lumière de ce que j'ai vécu cette année, là, en attente pendant 10 mois d'une rampe d'accès pour pouvoir sortir de chez moi et tout ça, je disais à la blague, on dit que la politique, c'est de serrer des mains puis prendre des bébés dans ses bras. On peut-tu entrer en campagne là, parce que j'aimerais ça, moi, serrer des bébés dans mes bras?
vous êtes rendu à rencontrer le monde, mais faudrait que vous sortiez ça. Pour ça, c'est ça.
Ben, exactement. Là, c'est chose faite depuis le 21 décembre, j'ai ma rampe d'accès.
Bravo!
Là, si la température peut être un peu plus clémente, je vais pouvoir sortir un petit peu plus, mais toujours avec aide, bien sûr. Et puis, mais au moins, là, je me sens plus en prison. Et moi, j'ai toujours une pensée pour les gens qui ne sont pas équipés de la nature comme moi, c'est-à-dire avec une grande gueule et une tête très dure, pour ne pas dire de cochon. Je pense toujours à ces gens qui justement, n'ont pas cette aisance que j'ai à me battre pour mes droits. Puis,
oui.
Alors pour moi, ça va de soi que de m'impliquer.
C'est naturel pour vous de faire de la politique.
Oui.
Sauf que,
oui.
Pour que les gens comprennent bien, je veux pas insister, oui. Parce que vous allez surpasser et dépasser cette situation-là aussi, mais vous étiez pas en situation d'handicap il y a 2 ans environ, ou
non.
À tout le moins. Vous êtes nouvellement une personne en situation d'handicap.
Oui, absolument. Puis je souffre un petit peu du syndrome de l'imposteur à cause de ça, là, mais enfin.
Mais vous le vivez.
Pour moi, je le vis. Oui. Je le vis tout à fait. C'est suite à une erreur de médicament qu'un médecin a prescrit, des relaxants musculaires alors que je perdais la force dans mes jambes. Alors, je suis tombée dans mes escaliers, puis je peux plus marcher depuis ce temps-là. Alors, c'est aussi simple que ça. Mais côté santé, c'est extraordinaire. J'ai jamais été, peut-être quand j'étais adolescente, là, j'ai rarement été aussi en bonne santé que je le suis maintenant, sauf que je ne peux pas marcher. Puis la médecine actuelle ne se penche pas beaucoup sur la question. Alors, voilà.
Oui, on ne va pas insister sur la maladie, mais rappelons là, que c'est pas important. L'important, c'est que vous vivez une situation de handicap, des situations de handicap.
Oui.
Et
oui.
Est-ce que ça va changer votre manière de faire une campagne?
Oui, bien sûr. Disons que c'est pas parce que je suis en fauteuil roulant que je perds mes convictions de gauche, là, comme les mentionnait Pascal, Monsieur Mainville, pardon, avant moi. Mais c'est clair que je suis complètement dépendante de mon conjoint pour faire le déplacement sur la rampe d'accès et pour rentrer dans l'auto aussi.
Ouais.
Je peux pas conduire. Alors bon, pour
donc vous, votre conjoint fasse campagne avec vous.
Ah oui, c'est ce qu'il avait fait aussi en 2014. Il était mon directeur des communications. Puis disons que on s'est rencontrés quand on était plus âgés, mettons. Alors on aime vivre des projets comme ça.
Ouais.
On n'a pas de.
Vous êtes rencontrés aussi au moment de la politique. C'est pas comme si c'était un conjoint qui vous avait vu surtout artiste sans être politicienne.
Non, pas du tout. En fait, on s'est connus sur Facebook.
Ah!
Bien oui. Et sur le mur d'un ami commun qui, lui, est très impliqué en politique et puis en droits sociaux et puis lutte contre la pauvreté et tout ça. Alors, j'ai beaucoup appris de cet ami-là. Et j'ai aussi rencontré mon maman qui était là. J'ai rencontré l'homme de ma vie.
Ah, bon. Mais c'est, en fait, vous vivez des choses très intenses. En tout cas, en 2017, vous n'avez vécu. En 2018, si je comprends bien, vous vous lancez. Vous voulez vous lancer comme candidate?
Absolument, absolument. Puis la tâche sera pas mince parce que la circonscription de Bertrand, de laquelle je faisais partie, vient maintenant d'être scindée ou redessinée là, par le DGEQ. Donc, on se ramasse avec une nouvelle circonscription de Prévost, qui est aussi la ville où est-ce que je réside. Donc, tout est à faire. Faut aller chercher les militants, les bénévoles et enfin,
vous devez partir une association de A à Z, là.
Oui, c'est ça.
Ah, bon, ben, vous avez du
et
travail.
Ça ouais. prend du temps, puis je ne suis pas la plus patiente de la gang. Ça, c'est bon côté. mais ça aussi, c'est... Ben, enfin, bon, je connais la méditation intimement, alors okay. Voilà.
Donc, un peu de méditation avant d'entrer dans le combat.
Ça fait toujours du bien.
Bon, bien. Alors, Lucie Maillard est avec nous. Pascal Mainville, vous aviez envie d'intervenir, c'est ce que j'entends?
Ben moi, j'écoute Lucie et j'approuve entièrement, sans aucun doute. Non, je peux dire, c'est exactement ça.
Bon.
J'ai rien d'autre à ajouter. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Lucie dit. Hein.
Bon. Ben, alors, j'y vais avec des questions. Peut-être.
Vous, oui, bien sûr.
Allez-y, Madame Maillard, Pascal Mainville. On en a presque parlé tantôt. Est-ce que ça prend des quotas? Parce que, évidemment, vous avez vécu tous les deux dans un parti de gauche féministe qui oui. accepte d'emblée la parité. Oui. Est-ce que ça prendrait un pourcentage de personnes en situation de handicap candidat?
Je vais me dépêcher de répondre parce que je vais laisser M. Mainville s'exprimer plus longuement que moi là-dessus. Mm. Je veux juste vous dire que pour moi, la définition de handicap n'est pas celle qui est couramment acceptée. Moi, j'ai grandi avec un papa qui n'avait l'usage que d'une main. Ça ne l'a jamais empêché d'attacher ses lacets de chaussures par ouais. lui-même, puis tout ça. Alors, pour moi, j'ai de la difficulté à déterminer ce qu'est une personne handicapée.
Ouais. Mais quand même une nuance entre une main difficile puis être obligé de se déplacer en quadriporteur, par exemple.
Oui, oui, absolument. Bon. Absolument, ouais. Ça, je le concède. L'idée, par contre, c'est que j'ai été élevée, moi, avec un papa qui m'a montré à faire de la couture,
ah oui.
qui m'a entrepris dans la cuisine pour me montrer comment cuisiner et tout ça, parce que maman était occupée à enseigner la musique, alors bon, elle avait moins de temps, et c'est avec papa, et jamais je n'ai pensé que mon père était empêché dans ses mouvements ou quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Au contraire. Il cassait ma planche de surf à tous les ans quand on arrivait au bord de la mer puis qu'on allait acheter ma traditionnelle planche de surf. Il disait, ben, papa veut l'essayer, puis il a cassé, puis bon, je veux dire, on retournait au magasin et d'acheter une autre. Ouais. Puis, je veux dire, pour moi, il y a pas de, c'était pas une situation de handicap.
Mais supposons
que je vis ce que je vis,
ouais.
je suis tellement plus sensibilisée à la situation et ça n'a pas de sens de garder des gens à l'écart de la société.
Enfermés dans leur maison, comme vous l'avez été là.
Carrément, ça n'a aucun sens.
Ouais.
On ne peut pas, comme société, on ne peut pas se priver de la connaissance et du savoir et du savoir-faire
de ces personnes-là,
de qui que ce soit.
Oui. Pascal Mainville, je sens que vous vouliez intervenir.
Ben, moi, exactement, on ne peut pas se priver de personne. C'est inacceptable de laisser les gens à côté. Mais pour ce qui est du père de Lucie, moi, je dirais que c'était une personne handicapée, mais c'était une personne handicapée qui avait trouvé une façon de fonctionner autrement.
Ouais.
Pour réussir à fonctionner comme tout un chacun.
Ouais.
Souvent, on associe le handicap à difficulté, misère, incapable, irresponsable. C'est une personne handicapée, donc c'est sûr qu'elle est capable de rien faire tout seul. Alors que ça, c'est faux. Donc, c'est évident que des fois, on ne peut pas toujours fonctionner comme tout un chacun ou toute une chacune de la même façon, mais on peut fonctionner autrement et arriver au même résultat. Et c'est ce que faisait le père de Lucie, je pense.
Oui. Bon. Oh, oui, tout à fait.
C'était une personne handicapée qui avait trouvé un moyen d'agir, de réussir à faire ce qu'il y avait à faire autrement.
Est-ce que c'est comme ça qu'on doit mener des campagnes? Parce que, fatalement, les campagnes ne sont pas faites, organisées là, pour inclure tout le monde dans l'état actuel des choses. Est-ce qu'il faut être ingénieux? Est-ce qu'il faut toujours bricoler? Ben, comment on fait une campagne?
Oui, parce que premièrement, vous savez... premièrement, ça prend un parti où on y pense.
Ouais.
Où on va prendre ne serait-ce que des locaux accessibles sans que la personne ait à brasser pour tout finir, pour réussir à avoir un local accessible. Moi, ça m'est arrivé en 2014, constamment à Québec, il y avait des problèmes avec une personne en particulier qui emmenait l'âge, n'était pas...
pas sensibilisé, oui.
Il fallait se battre à chaque fois. Donc, le minimum, c'est d'avoir, oui, ne serait-ce qu'un parti qui pense à prendre des salles accessibles. Ça a été le cas avec l'Option Capitale Nationale. Écoute, c'était pas la même chose pantoute. Moi, j'étais allé là pour d'abord et avant tout pour écrire le programme pour la partie pour les personnes handicapées. Puis ensuite, ben, comme je les connais toutes, d'ailleurs, de feu Option Nationale, C'est des amis. Donc, moi, j'allais là pour écrire le programme. Puis quand j'ai vu ça, qu'ils prenaient tout ce que je disais, de A à Z, je disais là. Dans un, voici l'ouverture que j'ai connue, toujours connue, deux autres, de ces gens-là. Deuxièmement, ben, ce serait maudit de ne pas vouloir parce qu'ils cherchent des gens. Donc, ce serait un peu imbécile et stupide de ne pas se présenter comme candidat pour eux autres. Parce qu'on avait une vision des choses assez avant-gardiste. Je voulais participer à ça comme citoyen, mais aussi comme personne handicapée pour ce qui est de la partie concernant les personnes handicapées.
Ben, la politique, dans le fond, c'est l'expression de la citoyenneté. C'est une grande expression de la citoyenneté.
Écoutez, exactement.
Est-ce que vous en avez croisé d'autres quand vous avez fait campagne? Parce que je dois avouer, il y avait une personne d'un parti un petit peu plus à droite qui a fait plusieurs campagnes, mais qui n'est plus présent au parti. Et pour ces raisons-là, elle n'a pas pu voulu participer. Mais j'en ai pas vraiment croisé au provincial, à part... à Québec solidaire. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Hey, mon Dieu, on doit passer bientôt à la pause. On n'a pas le temps de dire ça. Écoutez, vous êtes passionnant. On doit continuer de vous suivre. Donc, Pascal Mainville, est-ce que vous allez vous représenter? C'est la question, en fait, que je vous dis. Est-ce qu'on peut vous attendre quelque part en 2018?
En 2018, je pense pas, mais c'est sûr, au ministère, moi, je suis encore membre et impliqué à l'exécutif de Fonds Capital National.
Okay.
C'est sûr qu'éventuellement, ça va être quoi, en 2021? Je sais pas, il faudrait compter, là, rapidement. Là. C'est 4 ans. Donc,
bon.
Oui, éventuellement.
Donc, vous allez rester au municipal.
Je serai là.
Vous allez rester au municipal. Et Lucie Maillard, on suit votre campagne avec Québec solidaire dans la nouvelle circonscription de Prévost, c'est ça?
Oui, bien sûr. Et puis...
c'est terminé.
Québec solidaire pour nous aider.
Ben oui, faut que tout le monde ait compris Québec solidaire. Présentez-vous en politique, tout le monde. On vous le dit.
Vous écoutez Accès libre.
J'ai bien évalué les options. La fuite n'est pas la solution. Croisez les doigts. Je crois que t'as tout vu, et ben voilà. Et toute ta gloriole me déserte, et même l'orgueil vole en miettes. Jupe entordue et cheveux au vent. J'espère que tu trouves ça charmant. La gravité ne m'aime pas beaucoup. Je tombe souvent sans explication. Même pas un lacet qui se dénoue. Même pas une pièce à conviction. Mercurochrome et petits pansements. Toujours lors des pires circonstances. Genre au premier rendez-vous, et proportionnel à l'assistance. Plus y a de monde, plus j'ai l'air fou. Mes genoux embrassent le parquet. Rien d'une romance de série B. T'as dit ça va, t'as rien de cassé. Et je suis tombée amoureuse. Petite mamzelle de chemin, à petits pas tout près des tiens. Et c'est même pas grave si je perds pied. De toute façon, tu me trouves jolie, même échevelée. Je tombe souvent sans explication.
Question de la semaine, est-ce que c'est en faisant de la politique que les personnes en situation de handicap changeront les choses? Quelle est la réalité d'un candidat en situation de handicap?
À chaque émission, nous faisons découvrir un essai disponible en version audio grâce à Vusez-Voix. Rappelons que si vous présentez une déficience visuelle, perceptuelle ou encore si vous avez des difficultés liées à l'apprentissage, vous pouvez profiter de ces versions adaptées et je vous invite, dans le thème de l'émission, à entendre la quatrième de couverture « Mieux d'État » de Martine Ouellet en collaboration avec Yannick Marcil, publiée aux éditions Somme Toute, produit par Vusez-Voix.
Mieux d'État. L'État n'est pas une vue de l'esprit, une abstraction. Il est un outil appartenant aux citoyens et qui doit être à leur service. Ce livre présente une vision politique du rôle de l'État du Québec, de ses institutions et de ses services publics, qui doit protéger le bien commun. Il plaide pour que l'engagement politique et citoyen se porte à la défense de cet idéal. Le Québec possède des atouts pour son développement économique, technologique, social et politique. Et pour prendre sa place dans le monde, son État doit être revu afin qu'il soit meilleur, plus fort et adapté aux défis actuels. Mais le Québec ne dispose que d'un demi-État. Il est nécessaire pour son épanouissement qu'il contrôle la totalité de ses outils de développement avec l'indépendance du Québec. Préface de Claude Bellan. Ingénieur mécanique, diplômé de l'Université McGill et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, MBA, DHEC, Martine Ouellet est mère de deux enfants. Militante au Parti québécois depuis 28 ans, elle est à l'origine de la politique nationale de l'eau, adoptée en 2002. Elle a œuvré pendant près de 20 ans chez Hydro-Québec, principalement comme gestionnaire auprès des plus grandes industries du Québec. Élue depuis 2010 dans la circonscription de Vachon, à Saint-Hubert, elle a été ministre des Ressources naturelles de 2012 à 2014. Elle est aujourd'hui porte-parole du Parti québécois en matière de transport, d'électrification des transports et de stratégie maritime. Yannick Martil est économiste indépendant, spécialisé en transformation technologique et sociale, en développement économique, justice sociale et économie de la culture.
Et vous aurez certainement compris que c'est Martine Ouellet elle-même qui fait la lecture de son œuvre. Je vous invite d'ailleurs à entendre le quatrième de couverture « Mieux d'État », donc de Martine Ouellet en collaboration avec Yannick Marcil, mais lu cette fois en fait avec la préface lue par Claude Bellan. Écrit par Claude Bellan, mais lu par Martine Ouellet. On y arrive.
Préface. Le monde a beaucoup changé. On ne cesse de le répéter. Au Québec, comme ailleurs, nous nous retrouvons dans un grand tourbillon de changements que certains grands observateurs des sociétés qualifient de basculement du monde. L'évolution des technologies de communication rapproche les marchés. Il en résulte une mondialisation accélérée qui fait place à un large marché libre, à une circulation rapide des capitaux et à une spéculation produisant plus de richesses que l'économie traditionnelle d'échange de biens et de services. Si jadis le pouvoir politique ainsi que le pouvoir économique étaient au service des citoyens, voilà que l'élément central du développement est désormais le capital. L'argument économique est l'argument final de la plupart des décisions, y compris celles des gouvernements. Pourtant, cette domination du capital n'a pas que des effets financiers, mais aussi des effets sur l'emploi, la justice sociale, le bien-être, le bien commun, l'éducation, la santé, la culture, l'identité d'un peuple, etc. Des effets aussi sur la démocratie, sur des gouvernements qui se définissent depuis fort longtemps comme étant des gouvernements du peuple, par le peuple et pour le peuple. Depuis quelques décennies, un libéralisme exacerbé remplace la social-démocratie. En conséquence, le système économique dominant ne fonctionne plus pour la grande majorité de la population, dit le grand économiste américain Joseph Stiglitz.
Alors, c'était une version légèrement plus rapide que celle que vous pourriez entendre. N'oubliez pas qu'il est possible d'en faire la demande quand vous en avez besoin au service québécois du livre adapté de la BANQ.
On his arm, haystack charm around your neck, strung and thin, calling some friend, trying to cash some check. He said, you're acting dumb, well, that's what you've come to expect. Bye.
him through. His dirty retreat, falling armed, sixth and pile of dead sweat in my teeth. I'm gonna walk, 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 four more blocks, plus the one in my break. Down, downstairs, to the main, he's gonna make it all okay. I can't beat myself, I can't beat myself, and I don't wanna talk. I'm taking a cure, so I can be quiet whenever I want. So leave me alone, you ought to be.
Question de la semaine, est-ce que c'est en faisant de la politique que les personnes en situation de handicap changeront les choses? Quelle est la réalité d'un candidat en situation de handicap?
Et on voyage pas seulement en politique, mais un peu à travers le monde, grâce à Aube Savard, notre chroniqueuse Destination. Bonjour Aube Savard.
Bonjour.
Content, c'est la première fois aujourd'hui qu'on se voit pas de visu, la neige doit aider pas mal, hein?
Oui, et la grippe aussi de mon petit papa.
Ah, mon Dieu, oui, parce que c'est votre accompagnateur privilégié parfois.
Exactement.
Bon, OK. Alors, j'espère que tout le monde va aller mieux. C'est un peu comme ça au retour des fêtes, tout le monde est un peu malade. Et donc, faut arrêter d'y penser et vous nous amenez pour ça en Slovénie.
Eh oui.
Bon.
Petit pays coincé entre la Croatie et l'Autriche.
Aha.
Et magnifique petit pays.
Ah oui. Mais c'était... La Slovénie n'a pas déjà appartenu à l'Union soviétique?
Ça faisait partie, en fait, de tout ce qui était Tchécoslovaquie,
c'est
Slovaquie,
ça. Oui, oui.
etc. Là, c'est okay. Vraiment en Europe centrale comme telle. Donc, c'est pas lié nécessairement avec l'Union soviétique, mais avec l'ex-Tchécoslovaquie.
OK, avec l'ex... Merci de la précision. Donc, ceci dit, moi, j'en ai... parfois entendu parler, effectivement, semble-t-il que c'est un bijou. Vous l'avez visité déjà et vous avez envie de nous en parler parce que c'est un pays où il y a un principe d'égalité de traitement. C'est spécial, ça.
Oui, exactement. C'est en fait, il y a une loi qui est passée en 2004-2007. Et donc, tous les bâtiments publics et édifices touristiques se doivent maintenant d'être accessibles. Et ceux où l'accès n'a toujours pas été fait, ils réservent quand même des places de stationnement près de l'entrée.
Okay.
Et les toilettes, de manière générale, sont quand même bien aménagées aussi. Mais ce que moi, j'avais beaucoup apprécié, c'était quand même la dureté de cette loi-là. Par exemple, à Ljubljana, il y a une loi qui est vraiment très stricte pour les stationnements réservés aux personnes qui ont la vignette pour personnes handicapées. Et nous, on l'a vraiment vu. On nous l'avait dit, on nous avait prévenu, ne stationnez pas à un endroit si vous n'avez pas vous-même la vignette, parce que généralement, dans une heure, en moins d'une heure, vous allez être remorqué, et on l'a vu.
Ah, mon Dieu. Donc, c'est beaucoup dans cette ville-là que vous avez pu vous promener, parce qu'effectivement, la loi est de votre côté.
Eh bien, oui.
OK. Donc,
ben
c'est... Oui. Dites-le comme il faut, là, je ne suis pas sûr. Ljubljana?
Ljubljana.
Ah, Ljubljana. Bon.
Oui, les J se prononcent avec des I finalement.
Bon, ben merci pour ce cours de linguistique. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir, notamment, dans cette ville?
Mais d'abord, c'est une ville que moi, j'ai trouvée super charmante.
Oui.
Tout le centre-ville a été refait de manière à ce que les trottoirs et la rue soient au même niveau.
Mm-hmm.
Donc, c'est beaucoup plus facile de s'y promener.
OK. Y a-t-il un petit seuil pour les personnes aveugles, je pense, comme ça, une petite affaire, là? Non? Ou c'est plat?
Pas sûr, parce qu'en fait, c'est piétonnier dans une certaine partie.
Ah oui?
Oui, et puis il y a même des véhicules électriques qui peuvent vous déposer d'un endroit à l'autre de manière gratuite en plus.
Ah, wow!
Et moi, ce que j'ai beaucoup
Sauf que,
aimé,
désolé, le gars de défense de droit, il se pose quand même la question. Est-ce que c'est un environnement intéressant pour les personnes aveugles?
Ah oui, oui.
Oui? Oui, OK. Bon, c'est sécuritaire, là, on se perd pas dans les trottoirs.
Non, pas du tout. Il ne faut pas s'inquiéter. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est une ville qui est traversée par une rivière et tous les ponts qui enjambent la rivière ont été refaits sans aucune marche.
Ah, oui.
Donc, comme personne à mobilité réduite, on peut facilement passer d'un côté à l'autre de la rive.
Ah. Et vous pouvez
Donc,
même
sans
vous
aucune
rendre...
difficulté, c'est vraiment, vraiment agréable. Il y a beaucoup, beaucoup de magasins, de restaurants qui ont été mis au même niveau que la rue aussi pour faciliter les déplacements. Donc, on ne rencontre pas là, ce qu'on est habitué de voir ici, mettons, sur la rue Mont-Royal.
Oui, voilà, avec toujours les deux petites marches qui font que le restaurateur pense que c'est accessible, mais bon, en tout cas, la réalité est autre chose. Sauf que voilà. Ces ponts-là vous amènent même jusqu'à des châteaux. Il y en a deux châteaux dont vous vouliez nous parler.
Oui, bien, il y a d'abord le château de Ljubljana comme tel, qui est accessible via un funiculaire et c'est gratuit pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs.
Mmh.
Et ce qui est chouette, c'est que une fois rendu au château, il y a un modèle tactile avec des descriptions en braille pour les personnes avec un problème de vision.
Mmh.
Donc ça, c'est vraiment quand même, je trouve, une belle... c'est rare là, qu'une personne avec une déficience visuelle puisse être en mesure de toucher et de comprendre un peu la morphologie du château, si on veut.
Ah, c'est agréable, parfait. Puis donc, ces modèles-là, est-ce qu'on les retrouve à d'autres endroits que ce château-là? Ou...
Moi, j'en ai pas vu ailleurs. Okay. Par contre, il y a un autre château qui, lui, n'est pas accessible, qui n'est pas à Ljubljana même.
Mm-hmm.
C'est le château de Predjama.
Okay.
Mais ce que j'avais trouvé quand même assez génial, c'est qu'on a là-bas un super bel accueil comme personne à mobilité réduite. Ou comme personne handicapée là, de manière plus large, parce que, le château n'était pas accessible, mais tout de suite, on nous a proposé. Par contre, on peut vous faire écouter l'audioguide gratuitement, donc vous allez pouvoir apprendre l'histoire du château, du contexte dans lequel le château existait, etc.
C'est une forme d'accommodement, disons.
Pardon?
C'est une forme d'accommodement.
Ben oui, exactement. Okay. C'est qu'on nous offre des solutions de rechange, en fait.
OK. Puis il y a
ça,
même.
C'est vraiment pas partout que
c'est
proposé,
sûr.
Là.
Oui, c'est vrai. Et il y a même un musée de l'ethnographie. Ça m'intéresse pas mal parce que.
Ah oui, moi, je les adore, ces musées-là.
Oui.
C'est mes préférés. Ça aide toujours à bien comprendre un pays, à bien comprendre tous les peuples qui l'habitent, etc. Évidemment, j'en retiens toujours peut-être même pas 10%, mais c'est quand même merveilleusement agréable au moment où on le visite. Et le musée de l'ethnographie à Ljubljana est vraiment splendide. Le design est recherché, le design est de qualité. Tous les renseignements sont bien expliqués, c'est clair, c'est vraiment très, très intéressant. Et en plus, c'est gratuit pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs, là aussi.
Ben alors, vous nous avez trouvé trois endroits magnifiques, même, oui, trois endroits, mais il y a même une grotte,
oui,
c'était caché pas
ça,
très loin.
C'est très rare. La grotte de Postojna, c'est difficile à prononcer.
Postojna, c'est une autre ville située où exactement?
Oh mon Dieu, c'est plus au sud de Ljubljana et mon Dieu, je me rappelle plus exactement si c'était vers l'est ou l'ouest.
Mais c'est pas la même ville.
C'est plus au sud.
Ok.
Non, ça, on n'est pas du tout dans le même endroit.
Donc pour se rendre, disons, de la première ville à la deuxième, il faudrait avoir entré dans une voiture. Est-ce qu'il existe des transports adaptés?
Ça, moi j'étais mobilisée.
Oui, mobilisée.
Mobilisée.
C'est correct. C'est habituel. On n'avait pas encore ri, là. C'est pas notre habitude pour les chroniques.
Voilà. Il fallait bien que ça arrive. Donc,
vous êtes très mobilisée,
moi, j'étais en voiture à ce moment-là, donc je ne me suis pas attardée au transport en commun, ni à toutes les accommodations qu'il y a à ce niveau-là, là-bas.
Donc, faut juste en savoir. Plus si vous choisissez la première grande ville qui est très accessible, il faut savoir si on peut se rendre à la grotte. Mais donc, parlez-nous de la grotte. Vous pouvez me le dire, je suis fatiguant, je sais.
Non, mais c'était génial parce que, bon, déjà, les grottes, c'est très rare que je puisse les visiter parce que, bon, généralement, il y a une trallée d'escaliers. Il y a beaucoup de marches à faire également. Mm-hmm. Et puis, là, ce qui était vraiment chouette, c'est que la première partie se passe dans un petit train. Si vous avez un fauteuil roulant pliable et que vous êtes capable de monter dans le train, ben, il n'y a aucun problème parce que une fois que la première partie se termine, à partir de ce moment-là, on part en visite guidée avec un guide, évidemment, puisqu'elle est guidée.
Elle n'est pas téléguidée, non.
Non, c'est ça, c'est exactement. Et puis, à partir de ce moment-là, il n'y a aucun escalier. Et le sol est antidérapant. Le seul truc, c'est que ça vous prend un accompagnateur, c'est sûr et certain, parce que les pentes sont très à pic.
Oui.
Je pense qu'ils n'ont comme pas pensé là, que...
Mais c'est surtout dans la seconde partie, ça, de la grotte.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on pourrait seulement faire la première?
Pardon?
Est-ce qu'on pourrait seulement faire la première?
Je crois que oui, parce que après on reprend le train au retour. Donc, à mon avis, oui, il y a sûrement une possibilité de le faire comme ça.
Observant.
Maintenant, je ne me suis pas renseignée. Oui. Moi, je me lance toujours un peu dans la gueule du loup et puis je vois après.
On vous connaît, là.
Ben, c'est ça.
On vous reconnaît. Donc, Aube Savard, rappelons que vous êtes chroniqueuse destination. Votre site web en partant pour plus d'informations?
voyageramobilitéréduite.com.
À très bientôt, Aube. Merci pour la Slovénie.
Merci à vous.
Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique qu'on déclarait l'état. Les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien, plus rien. Mon frère terre et morrière au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Question de la semaine, est-ce que c'est en faisant de la politique que les personnes en situation de handicap changeront les choses? Quelle est la réalité d'un candidat en situation de handicap?
Et continuez de répondre à la question. N'oubliez pas, vous pouvez le faire sur cette page, peut-être, que vous fréquentez en ce moment, canalm.vusezvoix.com, ou si vous êtes sur le câble, migrez là, vers soit les réseaux sociaux, donc Facebook, ou notre page, canalm.vusezvoix.com, pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est là le meilleur lieu pour changer les choses, la politique active, pour les personnes en situation de handicap? Il y a eu plusieurs commentaires, j'aimerais ça en répercuter quelques-uns. Bon, peut-être un plus cynique, là, il y a Sylvie Trudel qui dit « Avec un certain sarcasme, ne sommes-nous pas des faibles... » Ne nous sommes... Et c'est bizarre ça. Nous ne sommes... Ben, je vais le changer maintenant que je vous le lis. Nous ne sommes pas des faibles qu'il faut protéger, qui sont en poste pour remplir certains critères et remplir sous la supervision de quelqu'un là, qu'on commande. Alors, c'est un peu une manière sarcastique de le présenter. Il y a des gens qui pensent que c'est un lieu important. Je pense entre autres à Daniel Lepage qui nous écrit « Définitivement, et pour la simple raison que plus il y aura de personnes en situation de handicap dans la sphère publique, plus il y aura de chances que leurs revendications soient entendues. » Ceci dit, ce n'est qu'une facette du problème. Il ne faut pas non plus attacher trop d'importance à la représentation politique dans le cadre actuel, car la gérance politique se fait de plus en plus en fonction des sondages et des gains électoraux, et en ce sens, la situation actuelle est des plus décourageantes. Comme les personnes en situation de handicap ne représentent pratiquement rien en termes de gains électoraux, ça, je ne suis pas sûr, mais enfin, on laisse écrire ça, les partis, surtout provinciales, n'en tiennent tout simplement pas compte. C'est quand même intéressant qu'on souligne, parce que c'est sûr que les personnes en situation de handicap, on ne sait pas, est-ce que les gens vont voter pour eux? Hein? Je me rappelle un bon ami, Laurent Morissette, qui s'était présenté comme candidat pour Projet Montréal, en fait candidat pressenti, et les gens n'ont pas voté pour lui non plus comme futur candidat. Donc, est-ce que les gens se reconnaissent dans les personnes handicapées? C'est spécial. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va plus loin. Jonathan Marchand, qu'on connaît bien, un activiste, qui répond à la question. Avoir des personnes en situation de handicap qui occupent des postes de décideurs serait déjà un avancé, mais c'est insuffisant. Collectivement, les personnes en situation de handicap doivent se représenter elles-mêmes aux diverses instances et ne plus se fier sur des organismes de représentation qui ont tous des agendas différents. Nous devons être au front et les personnes valides qui disent nous appuyer doivent rester en arrière-plan. Personne n'est mieux placé que nous pour créer et obtenir des solutions qui respectent nos droits et notre humanité. C'est la seule façon que les choses aient jamais changé. Donc, merci aussi à Jonathan Marchand qui nous a fait ce commentaire, mais aussi Sylvain Plourde, Lisa D'Amico. Continuez de nous écrire. Je remercie les gens qui ont rendu cette émission possible, c'est-à-dire Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagna aux communications, Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les autres personnes qui sont venues pimenter, alimenter ces questions qu'on s'est posées aujourd'hui à l'émission sur la page canalm.vusezvoix.com. Et donc, j'aimerais ça me présenter, Benoît Racette. Non, c'est pas en politique que je me présente, en tout cas pas tout de suite. Non, donc Benoît Racette, je vous salue dans la forme d'une question. Bientôt, c'est peut-être en politique qu'on va se faire un véritable accès libre.